Donc on va faire la lecture du verset 1er au verset 35. Acte 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche et ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Alors, on va voir ce matin le premier concile de l'Église chrétienne, donc des vrais chrétiens. Qu'est-ce que c'est un concile ? Un concile, ça vient du latin « concilium », qui signifie « assemblée ». Donc, un concile, c'est une assemblée, en fait, des anciens, et ici on voit des apôtres qui vont se réunir ensemble et qui vont prendre des décisions concernant la foi et la doctrine chrétienne, c'est-à-dire ce que l'on croit vraiment, qu'est-ce qui est la vérité. Donc le premier concile ici à Jérusalem, c'était les anciens de Jérusalem avec les apôtres, les anciens qu'on appelait aussi évêques, avec les apôtres. Alors j'aimerais juste faire un petit aparté, une petite parenthèse sur l'histoire un peu des conciles. Et ça vient aussi nous expliquer un petit peu celui-là. Parce que ce premier concile va en inspirer d'autres. La différence, bien sûr, c'est que les conciles suivants se feront sans les apôtres qui seront décédés. Donc il ne restera plus que les anciens ou les évêques. Et on voit que même l'histoire nous montre que petit à petit, un évêque va être un peu choisi, enfin quelqu'un va être un petit peu au-dessus dans chaque ville. Ça sera l'évêque qui représentera en quelque sorte les églises locales de chaque grande ville. Donc c'est pour ça que après dans l'histoire on voit l'évêque d'Hippone, l'évêque de Constantinople, avec des noms connus qui font partie des pères de l'église. Alors ça c'est un fait historique qui n'est probablement pas idéal, parce qu'on sait que petit à petit, eh bien, ça a ouvert une dérive vers une hiérarchie avec une forme un peu pyramidale. On dénote aussi deux types de conciles. Il y avait les conciles dits œcuméniques, c'est-à-dire universels, et les conciles dits particuliers. Dans les premiers siècles, donc deuxième, troisième siècle, c'est surtout des conciles particuliers. Ça veut dire que les évêques d'une ville se réunissaient ensemble ou d'une région et puis débattaient sur les questions de doctrine, sur la foi, sur la vérité, parce que, eh bien, il y avait des fausses doctrines qui couraient ou des personnes qui enseignaient des choses qu'on ne retrouvait pas dans les Écritures. Mais en 325, il y a l'empereur Constantin qui va réunir le concile œcuménique cette fois, donc universel, de Nicée. Donc œcuménique, pourquoi ? Parce que ça rassemblait en fait tous les évêques, du monde connu d'alors. Donc j'ai lu qu'il y avait 400 évêques qui se sont donc réunis et qui ont commencé à débattre. Et ici au concile donc de Nicée en 325, c'était notamment sur la nature du Fils par rapport à la nature du Père. Donc il y avait quelqu'un qui s'appelait Arius, un prêtre, qui disait que Jésus, c'était une créature intermédiaire entre le Père et les hommes, mais une créature. Mais ce concile, en fait, a permis de réaffirmer, non, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, de Nicée va sortir un mot un peu compliqué, la consubstantialité, c'est-à-dire que la substance ou la nature du Père est la même que la substance ou la nature de Jésus-Christ. Ils sont Dieu, tous les deux, ils sont de même nature divine. Jésus n'est pas une créature, il est Dieu au même titre que le Père. Et il va y avoir une sorte de consensus, sauf quelques-uns qui ne vont pas être d'accord, bien sûr Arius, mais il va y avoir un consensus pour dire non, Jésus est Dieu au même titre que le Père. Donc ça, c'était bon. Sur ce point-là, c'était très bon. Mais si les conciles permettront de poser la doctrine pour lutter contre les hérésies et les faux docteurs, donc contre des théologiens qui allaient plus loin que les Écritures, il faut tout de même noter que les conciles ont aussi apporté des mauvaises choses. Donc on posait la vérité, mais en même temps, parfois, eh bien, il y a des erreurs qui ont commencé à venir, à se glisser. Ici, en 325, on est donc au début de l'ère catholique, on va dire, de l'Église universelle. Si on veut le situer, on peut le situer peut-être avec Constantin en 312, quand lui-même eh bien, ressent une conversion. Il appelle cela comme cela. Il se convertit au christianisme. Et là, il déclare l'Empire romain chrétien. Voilà, vous étiez tous païens, mais maintenant, vous êtes tous chrétiens. Donc, c'est l'Église catholique, l'Église universelle. Mais en faisant ça, petit à petit, eh bien, a commencé à y avoir des dérives doctrinales. On s'est écarté de plus en plus des Écritures. Alors, par exemple, premier concile d'Éphèse, un petit peu plus loin, en 431, on proclame Marie, mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus, l'homme. Mais elle n'a pas enfanté Dieu, Dieu est de toute éternité. Mais non, on déclare Marie, mère de Dieu. Donc, erreur. En 425, concile de Chalcédoine, on adopte la discipline des sacrements. Alors que Jésus n'a donné que 2 ordonnances et pas 7 sacrements. Mais maintenant, eh bien, voilà, il y a 7 sacrements. En 787, deuxième concile de Nicée, on autorise et précise le culte des images. Alors que Dieu, dans l'Ancien Testament, abhorre, déteste, rejette un culte au travers des images. 869, quatrième concile de Constantinople, on affirme que la tradition est une règle de foi. Et donc, en faisant ça, finalement, on a élevé la tradition au rang de la parole de Dieu. Hein, alors que Jésus a dit que la tradition des hommes annule la parole de Dieu. Dans ce même concile, ici à Constantinople, on a rejeté la trichotomie, encore un nom un peu compliqué. C'est l'idée que l'homme est fait corps, âme et esprit. Alors on a dit, c'est la dichotomie, l'homme n'est qu'un corps et qu'une âme. Alors que la Bible dit en Thessaloniciens que nous sommes corps, âme et esprit. Donc vraiment contraire aux Écritures. Donc, on voit que l'idée du concile pour se réunir et poser la doctrine était une bonne chose au commencement. C'est ici dans les actes. Mais c'est aussi quelque chose qui a commencé à poser problème, surtout dans son aspect universel. Et c'est toujours le danger quand on parle de concile œcuménique ou universel. À partir du moment où un concile déclare une vérité pour l'ensemble de toutes les églises locales de toute la terre... Eh bien, quand on déclare une erreur, eh bien, c'est pour tout le monde. Voilà, on propage et on déclare l'erreur pour tout le monde. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé avec l'Église catholique romaine. Jésus a expliqué que, eh bien, dans le champ où il a jeté la bonne semence, le blé, un ennemi vint et sema de l'ivraie. Et les deux, eh bien, ont commencé à pousser ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un ensemble de faux chrétiens qui ont commencé à pousser avec les vrais chrétiens, et c'est comme ça que plein de fausses doctrines ont commencé à émerger. Mais revenons maintenant à notre sujet, acte, premier concile. Qu'est-ce qui amène à réunir un concile? En fait, on voit, c'est une attaque de la foi ou une attaque de la vérité doctrinale des Écritures. Ici, c'était le cas, on a vu, c'était le cas à Nicée, et puis dans bien d'autres conciles encore. Et ici, l'attaque est de taille. On est en train de s'en prendre au cœur même du salut. La question, c'est comment être sauvé? Comment pouvez-vous être sauvé? Ce n'était pas une question secondaire. Non, c'était primordial. Comment est-on sauvé? Verset 21, regardez, on va relire. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, verset 1, « Si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc cette affirmation était très grave. Sans la circoncision, pas de salut. Vous n'êtes pas sauvés. Donc c'était des Juifs qui venaient de Judée, d'Israël, qui affirmaient cela. On pourrait le transposer à toutes les religions du monde, finalement. Hein. Parce que quand vous regardez le monde... Tout le monde possède sa version quand on répond à cette question, mais comment être sauvé? Chaque religion va répondre ce qu'il croit pour être sauvé. Qu'est-ce qui nous sauve? Et le réflexe humain, naturel, c'est il faut faire le bien et se retenir de faire le mal. C'est ça qui sauve un homme. Tout le monde vous dira ça. Autrement dit, ce sont nos œuvres, nos efforts qui nous permettent de nous sauver nous-mêmes. Et les Juifs n'avaient rien d'autre que cette pensée, puisqu'ils dirent, si vous n'êtes pas circoncis, si vous ne faites pas cette œuvre de la circoncision, eh bien, vous ne pouvez pas être sauvés. Un peu plus loin, on voit dans le texte, d'autres Juifs, d'entre les pharisiens, il est dit, qui avaient cru en Jésus, vont dire la même chose. Regardez verset 5. « Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens » et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, oui, Jésus est le Messie, oui, il est le Fils de Dieu, oui, il faut croire en lui, mais sans la pratique de la loi, pas de salut possible. C'est ce qu'il disait. Alors, ça semble logique à vue humaine. L'homme doit se racheter, l'homme doit gagner son salut en pratiquant la loi. Et même, eux vont plus loin puisqu'ils disent en s'identifiant au peuple juif et en acceptant d'être circoncis. Et on voit combien il était extrêmement dur pour un juif de ne pas essayer d'imposer sa loi qui était depuis toujours. La loi fait partie du peuple. C'était leur vie de toujours, c'était leur habitude, c'était leur culture. C'était surtout la loi de Dieu, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, c'était impossible pour eux d'imaginer que Dieu puisse faire autrement avec les païens. Impossible. Mais pourtant, Dieu avait décidé d'agir autrement. Il voulait agir autrement. Et ce qui est touchant dans ce récit, c'est de voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ancien pharisien, zélé dans la loi, attaché à la loi. Mais quand il va entendre ces juifs de Judée venir et commencer à dire qu'il faut être circoncis, ouh, ça va commencer à bouillir dans son cœur. Hein. Verset 2, nous lisons, « Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. » Donc, ils se sont confrontés avec des arguments. Hein. La discussion était certainement tendue, vu les mots qui sont employés ici, parce que c'était des questions importantes. On était en train de toucher à la foi, à la vérité. Donc, c'était décisif. Est-ce qu'il faut être circoncis pour faire partie du peuple de Dieu? Est-ce qu'il faut pratiquer la loi de Moïse pour être un enfant de Dieu? Et on imagine, parce que, évidemment, ces hommes, quand ils sont arrivés dans l'assemblée, ils ne sont pas venus voir Paul et Barnabas pour leur dire. Hein. Ils se sont levés au milieu de l'assemblée, ils ont commencé à parler. Alors, ça a commencé à provoquer un tollé hein, et une confusion. Et les païens se disaient, mais ils étaient, voilà, c'était le désordre, le désordre. Qui croire, que penser? La chose avait pris tellement d'ampleur qu'ils ont dit non, il faut qu'on s'en remette aux apôtres qui sont encore vivants et qu'on aille les voir et qu'on débatte de cette question. Alors, ils sont partis pour Jérusalem, Paul et Barnabas et quelques autres. Une fois arrivés à Jérusalem, ils réunissent donc l'Église, les anciens et les apôtres. Et ils vont raconter d'abord tout ce que Dieu a fait avec eux. Et puis, de nouveau, cette question ressort d'elle-même quand ils commencent à parler du sujet. Donc, on a lu ensemble le verset 5, hein, ces anciens pharisiens hein, qui avaient cru. Et que vont-ils faire? À ce moment-là, ils vont s'isoler avec les apôtres et les anciens. On lit ça au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et c'est quelque chose qu'on peut relever ici, c'est qu'ils n'ont pas commencé ou continué à débattre de cette question comme ça au milieu de l'assemblée et ça devait fuser dans tout. Non, ils ont dit stop, on va se réunir ensemble. Et se sont mis à part, anciens, apôtres. Donc, voilà. Quelque chose qu'on peut retenir aussi, hein, quand il y a un grave problème, eh bien, on se réunit entre anciens pour régler ce problème. Et on voit comment ils vont régler ce problème. Donc, il va y avoir trois témoignages successifs. D'abord, celui de Pierre, ensuite, celui de Barnabas et Paul, et ensuite, celui de Jacques, qui va venir conclure. D'abord, il y avait... Donc, beaucoup d'autres anciens qui certainement ont donné leur avis. Hein. Ils ont tous parlé, ils ont partagé ce qu'ils avaient sur le cœur. Mais c'est ces trois témoignages qui ont finalement tranché la décision finale. D'abord, celui de l'apôtre Pierre. Simon Pierre, c'est celui qui a reçu les clés du royaume des cieux, nous est-il dit dans l'Évangile. C'est quoi les clés du royaume des cieux? Ça veut dire que c'est Pierre qui a ouvert l'Évangile aux Juifs, en prêchant aux Juifs. C'est Pierre qui a ouvert l'Évangile aux Samaritains, donc Samaritains qui étaient des Juifs, comment dire, avec, qui s'étaient mélangés avec des païens. Et puis c'est Pierre qui a aussi ouvert l'évangile, qui a donné le salut hein, en prêchant à Corneille aux païens. Et Pierre va rappeler cela. On va relire les versets 7 à 11 ensemble. Si vous voulez être bien attentif à cette lecture. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Donc Pierre est celui qui est venu prêcher l'évangile à Corneille, donc c'était les païens qui allaient croire, les premiers païens. Et comment Dieu a-t-il fait pour sauver Corneille et sa famille et les siens qui étaient là? Est-ce que c'était par la circoncision et par la mise en pratique de la loi? Non, pas du tout. Pierre dit au verset 9 que Dieu n'a fait aucune différence entre les Juifs et les païens. Il dit « ayant purifié leur cœur par la foi ». Il les a purifiés par la foi. Et c'est la première chose importante. La purification du cœur s'opère par la foi. On n'efface pas les péchés en faisant du bien. Ce n'est pas parce que j'ai transgressé le septième commandement qu'en pratiquant le neuvième et le dixième, je vais effacer la transgression du septième. Le fait de faire du bien n'efface pas le mal que nous avons fait. Mais la purification du cœur, on lave les péchés de notre cœur, comment ? Par la foi. C'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. C'est ça qui purifie notre cœur et rien d'autre que cela. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, verset 8, Dieu, il est dit, Dieu qui connaît les cœurs, qui a donc vu dans les cœurs, il a vu cette foi qui sauve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a donné le Saint-Esprit comme il l'avait donné aux Juifs, de la même manière. Et quand quelqu'un croit véritablement en Jésus-Christ, comprend le salut, lui remet sa vie, alors Dieu donne le Saint-Esprit qui vient habiter dans le cœur. C'est un miracle. Dieu vient habiter dans le cœur de celui qui croit. C'est la deuxième chose. La foi, le don du Saint-Esprit. Et la troisième chose que Pierre nous dit, regardez verset 11. Verset 11, il dit que c'est par la grâce du Seigneur Jésus qu'il croyait être sauvé au même titre que les païens. Donc, il dit le salut est une grâce, le salut est un cadeau, le salut est gratuit, le salut est un don. Le salut ne se mérite pas. On ne peut pas le gagner, on ne peut pas travailler pour le gagner, on ne peut pas l'échanger, on ne peut pas le mériter. Soit on le reçoit comme un cadeau, soit on ne l'a pas. Je vous pose la question, est-ce que vous avez reçu le don de Dieu ? Est-ce que vous avez reçu le salut comme une grâce ? Celui qui croit sincèrement, qui se repent de ses péchés, il est purifié par la foi. Dieu le purifie. Dieu lui donne le Saint-Esprit et il est sauvé. Immédiatement, il a la vie éternelle. Mais ces Juifs voulaient replacer ceux qui avaient cru, les chrétiens, sous la loi. Il leur disait finalement, mais le don du Saint-Esprit, la foi, la grâce que vous avez reçue, ça compte pas si vous ne vous faites pas circoncire et ne pratiquez pas toute la loi de Moïse. Paul a écrit une pensée pertinente dans son épître aux Romains. Il a dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et on voit vraiment, il dissocie les deux. C'est très, très clair dans les Écritures. Et la question est de savoir si Dieu nous a fait grâce et on l'a reçu, ou si on est en train de travailler pour essayer de mériter et gagner le salut. C'est soit l'un, soit l'autre, ça ne peut pas être les deux en même temps. Et Pierre a répondu clairement, c'est par la foi, c'est par la grâce, c'est un don de Dieu, il vous donne le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on est sauvé. Et ce témoignage était très fort, puissant, parce qu'il reposait sur le vécu, ce qu'ils avaient vécu et qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Il est dit, ça imposa le silence. Tout le monde s'est tu dans l'assemblée quand Pierre a commencé à expliquer ces choses. Mais un témoignage ne suffisait pas. Regardez, on voit ensuite le témoignage de Barnabas et Paul, cette fois verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Qu'est-ce que c'est ici? C'est le témoignage de Barnabas et Paul, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Finalement, c'est le témoignage de la bénédiction de Dieu sur ce message. Parce que Paul et Barnabas n'ont pas arrêté d'aller prêcher ce message de la grâce partout. Et Dieu bénissait ce message. Paul et Barnabas en étaient témoins. Ils avaient répandu ce message et ils avaient vu plein de miracles. Et ils avaient vu des centaines de conversions. Et ces centaines de conversions avaient engendré des milliers de conversions et ça n'arrêtait pas. C'était une boule de neige. Ce message de la foi et le don de Dieu, c'est un message qui sauve. C'est un message qui transforme la vie. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce le fait. La grâce de Dieu l'opère. Pierre l'a dit, la loi place un joug sur les épaules. Ça plaçait un joug sur les épaules des Juifs, ça aurait encore placé un joug maintenant sur les épaules des chrétiens. Puisque la loi dit, fais ceci, fais cela, agis comme cela, n'agis pas comme de cette manière. Donc elle donne des ordres, et c'est bien, hein? Dieu dit, la loi est bonne. Mais la loi ne donne pas la force de l'accomplir. Elle dit simplement, fais ça, fais ci, fais là. Tandis que la grâce, elle libère. Elle délivre. Pourquoi? Parce que la grâce, d'abord, elle accorde le Saint-Esprit qui donne la puissance de faire les choses. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la grâce, elle libère parce qu'elle nous délivre de la loi. Et elle nous place sous une autre loi, la loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie. Ce qui signifie que les païens n'étaient plus tenus d'obéir à la loi de Moïse, mais maintenant ils étaient sous la loi de l'esprit de vie. Ils étaient tenus maintenant plutôt de garder une communion avec le Saint-Esprit et d'obéir au Saint-Esprit. En fait, faire ce que le Saint-Esprit leur disait. Et cette obéissance par l'esprit, c'était une obéissance qui était nouvelle. Jean nous dit dans son épître, elle n'est pas pénible, cette obéissance-là. Et elle n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que la victoire, de nouveau, nous vient par la foi. Comme la foi sauve, la foi rend possible l'obéissance. C'est Dieu qui la donne. Il est dit dans les évangiles, la foi transporte les montagnes. La foi, elle déplace les montagnes dans nos vies. Elle change les circonstances, elle transforme les choses dans notre cœur, elle peut même opérer dans notre volonté. La foi transforme notre vie. Par la foi, l'impossible devient possible. Donc Jésus nous libère du joug de la loi et il met sur nous un autre joug, son joug. Et il est dit, son joug est doux, son fardeau est léger. On n'est pas accablé, mais comment je vais réussir à obéir à tout ça? Non. On vit dans la paix, dans le repos, dans la confiance, dans la foi. On porte le joug qui est doux. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et hop, on suit, on obéit. Et c'est beaucoup plus simple, hein, et beaucoup plus apaisant pour l'âme. Et on fait des pas, et on avance, et on progresse, et les choses tombent. Mais il faut donner son cœur, il faut obéir. Faut vouloir vraiment, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais il y a un troisième témoignage. C'est Jacques qui va apporter ce témoignage, et c'est un témoignage qui n'est pas des moindres, qui est très puissant, c'est celui des Écritures elles-mêmes, celui de la Bible. Et ce dernier témoignage est primordial. Vous savez, on peut vivre des expériences spirituelles. Plein de gens vivent des expériences spirituelles dans ce monde, hein, partout, dans les églises et partout, on vit des expériences spirituelles. Mais l'important, c'est de toujours vérifier, est-ce que mes expériences s'accordent avec ce qui est écrit ? C'est ça qui est important. Est-ce que ça s'accorde avec ce qui est écrit ? C'est toujours, il faut vérifier. Si ce n'est pas confirmé, appuyé, entériné par la parole de Dieu, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon expérience, je la mets dans une boîte, je referme la boîte et je dis non. C'est une expérience. C'est une expérience. Vous savez, on peut vivre plein d'expériences. On est des âmes, des esprits, et on vit des choses, on a des sentiments, il y a des... Voilà. Moi aussi, j'ai vécu des expériences que j'ai mises dans une boîte. Hein. Alors, je ne vais pas vous raconter quoi, mais on a tous des expériences parfois, eh bien, on les remet en question. Parce que ben, plus on lit la Bible, moins on le voit dans la Bible. Alors on se dit, ben mince, peut-être que je me suis fait une idée. Peut-être que je me suis trompé. Et je le mets dans une boîte et je m'en porte beaucoup mieux. Donc, l'idée des Écritures, c'était vraiment primordial, c'était très important. Et pour cette grande question, comment être sauvé, eh bien, les Écritures, et notamment pour les païens, devaient donner aussi une réponse. Alors, eh bien, Jacques va citer l'Ancien Testament pour répondre à cette question. Est-ce que Dieu avait prévu de sauver les païens, hein, comme il était en train de le faire ? Et il va citer le prophète Amos, donc on peut relire les versets 16 et 18. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Donc Jacques va citer une prophétie qui concerne plutôt le millénium, mais dans laquelle il trouve finalement une preuve que oui, Dieu voulait sauver les païens, se tourner vers toutes les nations. Oui, c'est écrit. Et on peut ajouter qu'il voulait le faire pas en les convertissant tous au judaïsme, mais il voulait qu'ils recherchent le Seigneur et qu'ils le trouvent, et qu'ils le trouvent. Dieu ne voulait pas que toute la terre entre dans l'alliance qu'il avait traité avec Abraham par la circoncision, mais il voulait qu'il trouve le Seigneur par la foi et qu'il soit sauvé au travers de Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé pour Corneille et c'est ce qui s'est passé pour tous les païens dans l'Asie mineure jusqu'en Grèce, ici à l'époque de Paul. Alors Jacques conclut, versets 19 et 20, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. » Donc là, la conclusion est claire. Les païens n'ont pas à se faire circoncire. Ils n'ont pas à pratiquer, à observer toute la loi de Moïse. Mais quand même, Jacques juge bon, par l'esprit, de leur donner trois ou quatre recommandations, selon qu'on en lit deux ensemble ou qu'on les dissocie. S'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Alors tout d'abord, s'abstenir des souillures des idoles. Pourquoi ? En fait, il s'agit des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Ça veut dire que à cette époque, sur les marchés, les bouchers païens prenaient des bêtes, hein, ils les tuaient et ils les offraient à des idoles. Hein, ils faisaient voilà, une offrande, une prière. Hein, et donc, ces viandes eh bien, étaient considérées comme souillées par les Juifs, hein, puisque dans l'Ancien Testament, il est bien dit hein, de ne pas rendre un culte à des faux dieux, etc. Ensuite, s'abstenir de la débauche. Alors, on peut s'étonner peut-être de cette recommandation parce qu'on se dit, mais finalement, c'est la morale, ça. Hein, ça semble un peu différent des autres recommandations. Mais il faut se souvenir que c'est toujours par rapport au culte païen de l'époque. Et dans les cultes païens de l'époque, eh bien, il y avait des orgies, il y avait des choses abominables hein, qui se faisaient dans la pratique de ces cultes. Enfin, il leur est demandé de s'abstenir des animaux étouffés. Alors, on peut essayer de le dissocier ou on peut le lier hein, avec l'idée de s'abstenir du sang, parce qu'en étouffant un animal, eh bien, évidemment, on ne saignait pas. Donc, le sang ne coulait pas. Ils pouvaient préparer ensuite l'animal avec le sang à l'intérieur et le manger comme cela. Et puis, bien sûr, l'Ancien Testament nous dit de ne pas manger du sang. Hein, la vie est dans le sang. Donc, c'est... trois ou quatre recommandations avaient à faire avec les cultes idolâtres païens de l'époque. La moindre de ces choses, si un juif la voyait, tout de suite disait « Ah mais, impur, hein, ils sont liés avec un culte aux idoles, même si quelqu'un mangeait une viande qui avait été achetée sur un marché païen. » Maintenant, est-ce que ces quatre choses étaient strictement interdites aux païens? Bien sûr, la débauche, c'est coupable. Quand on lit tout le Nouveau Testament, hein, Dieu condamne la débauche. Mais quand on regarde les autres choses, ça a plutôt à faire avec des rites païens qui étaient à l'époque. Et c'est intéressant de voir, donc dans les Épîtres, que Paul parle abondamment des questions de nourriture, notamment en Romains 14, en 1 Corinthiens 8 et en 1 Corinthiens 10. Dans ces trois chapitres, Paul développe ces sujets en profondeur. Il va dire, par exemple, « Pour ce qui est des viandes qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Autrement dit, ne soyez pas troublés pour ces viandes sacrifiées aux idoles. C'est rien du tout. Il va dire encore, « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » On ne pouvait pas faire une exhortation plus large. Manger de tout ce qui se vend au marché, et les marchés, hein, à l'époque, hein, eh bien, il y avait des viandes qui avaient été préparées selon tous leurs dieux et leurs cultes, et j'imagine eh bien, des viandes qui avaient été aussi, enfin, des bêtes qui avaient été étouffées et non saignées. Et donc, mis à part la débauche, où là, c'est clairement repris dans le Nouveau Testament et condamnable, condamné, les autres choses n'étaient pas formellement interdites aux chrétiens qui étaient païens. On peut peut-être se souvenir aussi de la vision de Pierre. Hein. Il a vu cette nappe. Donc, il a une vision sur le toit de sa maison. Il voit une nappe qui descend avec des animaux impurs dans la nappe. Et il entend cette voix qui vient de Dieu et qui lui dit « Pierre, tue et mange ». Alors, bien sûr, cette nappe qui est descendue par trois fois devant lui était pour lui montrer que maintenant, Dieu était en train de se tourner vers les païens. Mais c'était aussi, c'était choquant pour Pierre. Hein? Pierre, vas-y, tue et mange un cochon. Et comment ça Et il y avait aussi, puisqu'il était chrétien, eh bien l'idée qu'il était en train d'ôter toutes les prescriptions qui avaient à faire avec la nourriture, avec le manger, hein? Manger et le boire. Mais alors pourquoi donner ces recommandations au premier concile de Jérusalem? Pourquoi dire aux païens qu'il faut s'abstenir de ces choses? Mais en fait, la réponse est dans le texte. Regardez, verset 21. « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » Et puis aussi, regardez ces juifs qui se sont levés hein, et qui ont voulu imposer la circoncision et la pratique de la loi. Ben, pareil, tous ces juifs, c'était choquant pour eux. Et c'était quelque chose même qui faisait quelque chose dans leur conscience. Hein. Et Jacques nous donne la raison de ces recommandations aux païens. C'est que les juifs, et notamment les juifs convertis, prosélytes, et les prosélytes convertis, continuaient à entendre la loi de Moïse encore. Et ces juifs convertis, s'ils voyaient des païens convertis continuaient à manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais c'était terrible. C'était terrible. Imaginez la rupture que cela aurait fait dans l'Église. C'était vraiment quelque chose qui allait choquer les Juifs. Donc, il fallait s'abstenir, plutôt, se tenir en garde contre ces choses pour ne pas choquer les Juifs. Alors, c'est vrai, Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous pouvons manger de tout et notre liberté ne devrait pas être jugée par une conscience étrangère, dit Paul. Mais Dieu, en même temps, nous dit « Ayez égard à vos frères. Faites attention quand même, ne les blessez pas. » Paul va ajouter par exemple, dans une épître, il va dire « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, imaginez ça, assis à table dans un temple d'idoles, c'est terrible, hein ? Il ne dit pas qu'il ne fallait pas le faire. Il dit que si quelqu'un te voit, toi, à table, dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » Et là, Dieu nous enseigne l'important, c'est la conscience. C'est d'avoir une bonne conscience devant Dieu et ne pas blesser les consciences des autres. On le transpose d'une manière actuelle, aujourd'hui. Si un chrétien pense qu'il ne devrait pas manger un steak saignant parce que cela n'honore pas Dieu, alors eh bien qu'il agisse selon sa pensée pour honorer Dieu. Et en le faisant, Dieu sera honoré. Dieu sera honoré. Son désir de ne pas pécher, mais honore le Seigneur. Parce que dans sa conscience, il dit « Je ne veux pas le faire, parce que je ne veux pas pécher. » Mais Dieu est honoré. C'est l'obéissance, c'est bien. Maintenant, si on pense qu'il n'y a aucun problème à manger un steak saignant ou même du boudin, bon, j'aime pas le boudin, mais je le dis, et même du boudin, mais nous savons que notre frère sera choqué de le voir, alors, eh bien, il faut s'abstenir. Je suis libre, mais je m'abstiens parce que je ne veux pas choquer la conscience de mon frère pour qui Christ est mort. Et notre liberté ne doit pas prendre le dessus sur le respect et l'amour. Paul dit, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, tu ne le respectes plus. Donc le but des recommandations de ce premier concile, ce n'était pas de priver les païens convertis de leur liberté en Christ, mais c'était plutôt de leur donner d'avoir égard aux juifs, hein, avoir respect à ceux qui pensaient que ce n'était pas bien de faire ces choses, de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et puis aussi, c'était pour poser, et c'est le point le plus important, hein, la vérité doctrinale concernant le salut. C'est intéressant de relever que ce qu'ils écrivirent au verset 28, comment ça a été fait, hein, il dit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Et on voit, ce premier concile n'était pas une réunion sans la présence de Dieu, mais il y avait le Saint-Esprit qui était présent, et c'est lui qui est en train de remettre de l'ordre au niveau de la vérité doctrinale. Il remet de l'ordre, il dit non, c'est comme ça, le salut est par la grâce. Le salut n'est pas quelque chose qu'on peut mériter par la circoncision, par la pratique de la loi, par la pratique des bonnes œuvres. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le gagner ou l'échanger. Le salut est gratuit, c'est un don, c'est un cadeau. Dieu vous le donne simplement quand vous croyez sincèrement que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a versé son sang et que ce sang peut vous purifier. Croyez en Jésus, acceptez-le par la foi, par une prière de repentance. Et dans l'instant, qu'est-ce que fait Dieu ? Il vous fait le don du Saint-Esprit qui entre dans votre cœur. Et vous devenez enfant de Dieu. Vous êtes pardonné, lavé de vos péchés. Vous avez reçu le cadeau de Dieu, la vie éternelle. Comment le dire plus clairement ? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est limpide. Croyez en Jésus-Christ. Recevez-le et vous serez sauvés, pardonnés de vos péchés.